un hôpital au ralenti, des opérations reportées, des postes de travail déconnectés. Victime d'une cyberattaque lundi, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône a dû réagir avec les moyens du bord.
Et repasser au papier pur. Donc vous avez les noms qui sont inscrits des patients et qui s'en occupent.
On a parfois un peu du mal sur les traitements et les ordonnances et tout ça qu'on ne récupère pas forcément. Les antécédents, c'est un peu long.
Les attaques de ce type contre des hôpitaux se sont multipliées ces dernières semaines. L'ouverture d'un mail contenant une pièce jointe douteuse suffit à paralyser tout un réseau informatique. Une sorte de prise d'otage numérique appelée ransomware ou rançongiciel.
On a en face de nous des entreprises criminelles qui ont pour volonté de soutirer de l'argent en demandant des rançons aux établissements.
La consigne des autorités est de ne pas payer la rançon. Alors que le nombre d'institutions et d'entreprises touchées, petites ou grandes, ne cesse d'augmenter, Emmanuel Macron a annoncé ce matin un investissement d'1 milliard d'euros dans la lutte contre la cybercriminalité, une menace exponentielle et sans frontières.
On a vu très clairement aux États-Unis en fin 2020 des agences fédérales et des entreprises être attaquées. On a vu l'Agence européenne du médicament être aussi attaquée. Et donc, nous sommes tous en train de découvrir ces nouvelles attaques. Certaines sont étatiques et font partie de la nouvelle conflictualité entre États. D'autres attaques sont mafieuses.
Entre des réseaux de plus en plus organisés et des hackers espions payés par des États, comment se protéger des cyberattaques ? Peut-on vraiment court-circuiter ces criminels souvent intraçables? Ou est-on condamné à payer les rançons?
Elisabeth, qu'est-ce qui motive ces attaques? Alors Nicolas Arpajon, avant de rentrer dans le détail des motivations, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous définir ce qu'est une cyberattaque?
Alors là, il y en a une grande variété. Là, celles qui nous intéressent dans les hôpitaux sont ce qu'on appelle des rançongiciels. C'est-à-dire que le pirate va envoyer un logiciel qui va avoir pour effet de chiffrer et donc de rendre inaccessibles les données, le système de messagerie ou les équipements informatiques de la cible, parmi lesquels des entreprises, des collectivités et là, en l'espèce, des hôpitaux. Et il va monnayer la mise à disposition d'une clé de déchiffrement en échange, justement, d'une somme d'argent, en général en crypto-monnaie. Voilà, en tout cas une crypto-monnaie. Pourquoi ? Parce que ça a le mérite de la fluidité, de l'anonymat. C'est pour ça que d'ailleurs que les hôpitaux ne sont pas une cible, intéressante, parce que ce sont des institutions peu solvables. En plus, elles n'ont pas forcément la capacité de réagir rapidement. Et en plus, les hôpitaux publics, la règle est très simple, on ne paye pas de rançon.
On va y revenir.
C'est le principe.
On va y revenir, mais on a bien compris ce que c'était qu'une cyberattaque. Chiffre du jour à propos de ça, à propos du nombre.
436, ouais. C'est le nombre de procédures lancé l'an dernier par le secteur cyber du parquet de Paris. 436 procédures pour des attaques au rançongiciel en 2020 contre 148 seulement l'année d'avant, en 2019. C'est quand même multiplié par 3. Et puis là, rien que depuis le début de l'année, une quarantaine. Martin Unterzinger, ça veut dire que c'est un phénomène exponentiel aujourd'hui? C'est comme ça qu'on doit le traduire?
Oui, je pense. C'est surtout qu'on arrive au bout d'une dynamique de professionnalisation des groupes de pirates. On n'est pas du tout, faut tordre le cou au cliché de l'adolescent dans le garage ou le grenier de ses parents. C'est vraiment des gangs, des délinquants, bandes organisées qui rançonnent leurs victimes et qui, avec les quantités colossales d'argent qu'ils arrivent à rançonner, réinvestissent, se réorganisent, se spécialisent dans certaines tâches de la chaîne de l'attaque pour plus d'efficacité et pour au final faire d'autant plus de victimes. Et ça explique, je pense, l'explosion en 2020.
Est-ce qu'on peut imaginer que le chiffre est finalement plus élevé parce qu'il y a aussi des entreprises ou des collectivités locales qui ne disent pas qu'elles ont été hackées?
C'est surtout qu'elle paye la rançon. Rappelons, il n'est pas illégal en France de payer une rançon. Par contre, c'est un choix parce qu'évidemment, vous contribuez au financement de l'économie criminelle. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça peut être une décision de la part d'un dirigeant d'entreprise, par exemple.
Christine Dugoin-Clément.
Alors, il y a aussi autre chose, c'est que quand on parle de société privée, vous avez le problème de la confiance de vos clients. Et expliquer que vous avez des failles de sécurité qui sont extrêmement fortes et donc dire à vos clients, écoutez, tous vos fichiers et toutes vos données ont pu être revendues, c'est un peu compliqué. À titre d'exemple, je crois que c'était en 2017, il y a une clinique de chirurgie esthétique très cotée à Londres qui s'est fait hacker. Eh bien là, alors effectivement, il y a le problème du rançongiciel, du ransomware. La clinique paye ou ne paye pas, mais de toute façon, une fois que les données ont été récupérées, elles sont exploitables. Donc aussi bien pour les vendre, mais aussi pour aller faire du chantage. Imaginez que telle star n'a pas forcément envie que l'on sache très précisément de quoi ils ont été opérés. Et vous pouvez repousser un petit peu la démarche dans des approches d'intelligence économique, c'est-à-dire que si vous avez une société qui va rentrer en bourse et que vous savez, par exemple, que qu'il est suivi pour une maladie chronique ou qu'il a un pronostic vital engagé, que vous faites fuiter ce type d'informations, ça risque de poser des problèmes. Même cas quand on est dans des appels d'offres ou dans des marchés. Donc il y a un nombre derrière d'opérations qui sont extrêmement compliquées. Et puis, quelle va être votre fiabilité auprès de vos clients si vous n'avez pas été capable d'assurer la sûreté de vos données ?
Un dossier médical, Martin Tosinger, ça se revend très cher sur le Darknet ?
Alors ça, j'en sais rien. J'ai jamais essayé. Mais en revanche, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le groupe et la souche de rançon GTL qui a touché à la fois Dax et Villefranche-sur-Saône,
les hôpitaux,
avoir en tête,
oui.
Les hôpitaux, pardonnez-moi, oui. Il faut savoir que c'est vraiment crapuleux. C'est vraiment des groupes, leur seul intérêt, c'est vraiment de récupérer une rançon, de bloquer le système et de récupérer une rançon.
Quel montant de rançon
alors,
sont exigés, vous savez
ce groupe-là, je ne l'ai plus en tête, mais ça peut aller jusqu'à 5, 10 millions d'euros. Mm-hmm. On a vu des victimes payer des rançons qui dépassaient les 30 millions, spécifiquement pour ce groupe-là. Donc c'est vraiment des rançons très importantes. Et ce que je voulais dire par là, c'était mm-hmm. que l'objectif n'est peut-être pas nécessairement d'utiliser les données. Leur intérêt premier, il est
l'argent.
Vraiment...
Le lucre.
L'argent. Exactement. C'est ça.
Faites-nous écouter le secrétaire d'État chargé de la transition numérique.
Et oui, parce qu'il y a eu les hôpitaux, l'hôpital de Villefranche, oui. Et celui de Dax aussi la semaine dernière, et puis d'autres. Donc le gouvernement s'est saisi de la question. Cédric O, le secrétaire d'État, on le regarde.
On a eu 27 attaques d'hôpitaux, j'ai eu l'occasion de le dire hier, en 2020. On en a une par semaine depuis début 2021. Juste pour dire ce que ça veut dire une attaque d'hôpital, ça veut dire dans le cas de Dax ou de Villefranche-sur-Saône, le téléphone qui s'arrête, l'impossibilité d'avoir accès aux dossiers médicaux des patients, l'arrêt de l'imagerie médicale, l'arrêt d'un certain nombre de systèmes d'information qui permettent de gérer des services d'urgence ou des services... voilà. Et donc c'est extrêmement grave.
Christine Dugoin-Clément, l'hôpital est une cible de choix. On a l'impression aussi que ça s'aggrave avec la crise sanitaire.
Alors oui, bah pour plusieurs raisons. Alors pourquoi ça s'aggrave avec la crise sanitaire ? Vous l'avez dit très justement, c'est-à-dire qu'il y a un but qui est crapuleux. Or, tous les projecteurs sont sur les services de santé à l'heure actuelle et vous allez avoir une pression sociale de l'opinion publique beaucoup plus forte pour payer la rançon. À base de, écoutez, oui, mais vous mettez en jeu...
Il y va de notre vie.
Exactement,
notre
la vie de nos concitoyens. Donc évidemment. En fait, on espère qu'il y aura... quand on est de ce côté un petit peu crapuleux, une pression suffisamment forte pour faire lâcher les services de santé et ensuite pour payer. Et puis le deuxième point, c'est la facilité et l'envergure d'attaque. Alors là-dessus, il y a plusieurs raisons. La première, c'est... qui est normalement une très bonne chose, la médecine se modernise, notamment avec énormément d'IoT. Or, le problème...
C'est quoi IoT ?
L'Internet of Things. Ah. C'est tous les objets que l'on va avoir connectés. Alors, vous en avez qui sont de plus en plus à visée médicale, on parle des pompes à insuline, tout ce genre de choses. Or, si ça contribue très largement au bien-être des patients, quand on les crée, on pense justement à ça, au bien-être des patients, pas forcément au système de sécurité. Ce sont autant de portes d'entrée. C'est-à-dire que même si l'objet connecté lui-même ne porte pas de données du patient, ça peut faire des portes d'accès vers des serveurs qui, eux, contiennent ces données. Donc, vous avez cette superficie-là. Vous avez le fait qu'on va aller de plus en plus sur des travaux collaboratifs, donc connexion avec des postes différents. Autant de failles de fragilité. Et puis, il y a aussi d'autres hôpitaux qui sont malheureusement en souffrance économique et qui ont du matériel hors d'âge. Et bien là aussi, c'est compliqué de s'opposer.
Nicolas Arpajon, vous disiez pourtant que l'hôpital français, en France en tout cas, on ne paye pas la rançon. Donc,
alors, les acteurs
bon
publics, c'est-à-dire que c'est une doctrine en quelque sorte qui va être déjà... Alors, il y a déjà, Martin évoquait des montants qui, a priori, seraient quand même inabordables financièrement. Et puis, il y a une règle, on ne paye pas. Alors, c'est la raison pour laquelle, faute de pouvoir empêcher les attaques, il va falloir ensuite se mettre en position de se protéger. Et c'est d'ailleurs les annonces faites par Emmanuel Macron, de dire maintenant il faut que dans les dépenses des centres hospitaliers, il y ait une part
allouée
à la cybersécurité. Il parle de 5 à 10%. C'est en général, effectivement, le montant. Alors, le montant ne fait pas tout, parce qu'il faut que ces sommes soient allouées à des investissements adaptés et appropriés. Mais en tout cas, on ne peut pas considérer que la nature de votre activité, la nature généreuse, bienveillante, humaniste d'un hôpital pourrait vous dire, ils n'oseront pas nous attaquer. Non, parce qu'il y a le cas où les attaquants, en fait, automatisent leur système et ignorent que parmi ces victimes, il y a évidemment des activités tout à fait honorables de centres de soins.
Mais oui, si les attaquants s'en prennent aux hôpitaux aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer. C'est parce que des entreprises françaises ont payé et payent et continuent de le faire. Et si on s'arrêtait du jour au lendemain, je sais que c'est bien plus facile à dire qu'à faire de payer les rançons quand on est touché par ce type de cyberattaque, les pirates ne s'intéresseraient plus à nous et arrêteraient d'aller nous attaquer. Voilà, c'est un peu...
Qui sont ces pirates ? D'où viennent-ils ? De quelle nationalité ?
Alors,
pays de l'Est ?
Oui.
Beaucoup ?
Alors, c'est difficile. On, probablement de nombreux pays, mais tous les experts pointent vers la zone russophone, les anciens pays soviétiques. Pourquoi ? Parce que la quasi-totalité des échanges sur les forums cybercriminels où les différents groupes s'organisent, les échanges se font en russe. Il y a de nombreux groupes qui requièrent de parler russe pour contracter avec eux. La plupart des rançons GCL sont paramétrées, en tout cas les pires, pour épargner les systèmes qui sont paramétrés dans certaines langues, l'ukrainien, le kazakh, le biélorusse, etc., le russe, etc. Après, il y a plein des exceptions. Récemment, on a arrêté un Canadien soupçonné d'avoir été l'un des pilotes de ces rançongiciels. Donc, ils sont un peu partout. Il y a quand même des suspicions sur certains pays.
D'accord.
Nicolas Arpajon, donc, il y a plusieurs objectifs. Ça peut être crapuleux et ça peut être aussi de l'espionnage. C'est pas du fantasme, l'espionnage.
Bien sûr, ce sont des outils. Ça n'est que la volonté qu'on va lui attribuer. Ça peut être effectivement à des fins crapuleuses pour des mafias criminelles. Ça peut être également des États pour collecter du renseignement. On a vu des attaques sur les questions sanitaires et de vaccins, manifestement des laboratoires. Et entre nous soit dit, il n'y a qu'un autre spécialiste de la santé qui peut être intéressé par des renseignements techniques. Et après, on a même eu le cas de pays, par exemple, soumis à embargo et qui peuvent être en train d'utiliser des moyens criminels, crapuleux, pour récupérer des devises. Comme on l'a connu d'ailleurs dans les années 60 en France, quand effectivement des services de renseignement menaient des activités illicites pour récupérer du cash pour conduire d'autres opérations. Donc on a toute la palette, tant dans les acteurs que dans les cibles. Et puis évidemment, il y a ces corsaires qui en vont mêler leurs activités, de temps en temps sous la casquette d'un état-major pour défendre des intérêts stratégiques ou participer à des opérations collectives. Et puis, en échange de ce rôle de supplétif, on les laissera faire dès lors qu'ils n'interviennent pas sur le territoire domestique pour conduire des opérations. Et s'il y a des sollicitations judiciaires venant de l'étranger, on les traitera avec...
Un mandat d'arrêt international, ça ne marcherait pas contre
La coopération policière et judiciaire, avant d'arriver au mandat d'arrêt, il y aurait déjà des investigations. On mise plutôt sur l'enlisement. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que la question de la coopération... Martin, vous évoquiez une arrestation il y a quelques jours en Ukraine qui a impliqué la police ukrainienne, la police française, l'Office central chargé de la lutte contre les criminalités liées aux technologies de l'information et la section du parquet de Paris dédiée à la lutte contre la cybercriminalité. C'est faisable. Simplement, c'est un très gros travail d'investissement. Pourtant, manifestement, vos confrères de Ouest-France étaient les victimes de cet attaquant. Donc, c'était il y a quelques semaines. Donc, c'est faisable. Mais vous voyez, il faut un alignement de planète politique, juridique... Et puis technologique, et donc c'est des conditions rarement réunies.
Christine Dugoin-Clément, comment est-ce qu'ils s'organisent, ces pirates? C'est quoi? C'est des réseaux? Ils travaillent? Comment ils travaillent?
Alors en fait, vous avez plusieurs choses. Vous avez effectivement des groupes qui sont créés en tant que tels. Si vous voulez, c'est un petit peu comme les deux faces d'une même pièce. Vous avez tout ce qui va être de matière officielle et tout ce qui est de l'autre côté de la ligne. Bon, bah là, vous allez avoir des groupes qui peuvent fonctionner en tant que tels, mais qui peuvent aussi embaucher pour des missions précises ou pour des actions précises des hackers qui vont venir récupérer. Et vous avez des opérateurs principaux et des opérateurs secondaires. C'est notamment dans le cas de Ryuk qui est impacté dans beaucoup d'attaques.
Dans sur les franches, sur les notamment.
Ouais. Voilà. C'est un des soucis parce que typiquement, Ryuk fonctionne après une chaîne d'infection. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que vous ayez un malware qui rentre dans le système, qui permet ensuite d'ouvrir
un logiciel
malveillant, voilà. Excusez-moi, qui rentre dans le système, souvent par des méthodes de phishing classiques, donc d'emails fraudulés.
D'usurpation d'identité.
Voilà, et d'emails frauduleux. Et en fin de compte, qui vont permettre d'ouvrir, si vous voulez, donc des portes dérobées et non pas des backdoors, qui permettent ensuite d'installer le système. Notamment, plusieurs de ces logiciels, on a eu, par exemple, Trickbot, on a eu plusieurs. Et on sait que certains opérateurs sont spécialisés dessus. Est-ce que, pour autant, ils opèrent Ryuk ou pas? Est-ce que ce sont les mêmes? C'est une collaboration? Est-ce que c'est une revente? Plus compliqué.
Si on ne parle pas le globish, on peut lutter contre les cyberhackers?
Oui, absolument.
Oui, non, c'est une question taquine rapport à ce langage et à son hypertechnicité en anglais. Sonia, on évoque une attaque qui a eu lieu il n'y a pas longtemps contre un réseau d'eau en Floride.
Oui, alors là, c'est vraiment le genre de scénario qui fait froid dans le dos. Des pirates informatiques ont tenté d'empoisonner le circuit d'eau potable d'Oldsmar, une petite ville de 15 000 habitants. Heureusement, il reste des humains derrière les machines et un employé vigilant a donc permis d'éviter la catastrophe. Il s'est rendu compte que quelqu'un manipulait à distance le panneau de contrôle des installations et cherchait à augmenter considérablement la quantité d'hydroxyde de sodium, la soude caustique déversée dans les eaux, une substance chimique qui permet normalement à très faible dose d'éviter la corrosion des conduits, mais en grande quantité est un poison pour l'organisme. Le FBI a été appelé en renfort pour enquêter sur cette attaque qui illustre bien le cauchemar des spécialistes de la cybersécurité. Ce n'est pas la première fois que des usines de traitement d'eau sont prises pour cible. Aux États-Unis, ça s'est déjà produit. L'année dernière également en Israël, ces installations sont souvent vétustes, disséminées un petit peu partout sur le territoire et donc particulièrement difficiles à